RFI. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, commençons cette émission par une devinette. Que répondrait un sol nu si vous lui demandiez ce qu'il aimerait devenir ? La réponse est une forêt, car la nature a horreur du vide. C'est Altaïr Rodriguez qui explique cela. Elle cultive le domaine familial au cœur de la vallée du Silbao, en République dominicaine. Sa ferme est une oasis de biodiversité au milieu de monocultures. Nous irons à sa rencontre grâce au reportage d'Alice Campagnol. Altaïr montre la voie d'une agriculture créative, réconciliée avec le vivant, celle qui peut nourrir le monde et pas seulement enrichir une minorité. Car depuis 2014, la faim progresse à nouveau dans le monde. Une personne sur trois est en situation d'insécurité alimentaire. Et le plus fou est que les deux tiers de ceux qui ont faim sont des agriculteurs. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout cela, et la bonne nouvelle est que ce paradoxe s'explique et que les solutions pour en sortir existent, et c'est la conviction de notre invité.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Bonjour Jacques Tassin.
Bonjour.
Vous êtes agronome et écologue au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Vous êtes aussi membre de l'Académie d'agriculture de France et vous venez de publier Agriculteur aux éditions Odile Jacob. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous dites qu'il faudrait arrêter de dire agriculture. Qu'est-ce qu'on dit alors ?
Bon, il y a d'autres termes qui peuvent le remplacer. L'idée, c'est d'aller vers un art de cultiver la terre qui soit inspiré des processus du vivant. Et c'est vrai, quand on parle d'agriculture, alors on pense cela de manière hyper réductionniste, voire productiviste, alors qu'en fait, il faut élargir le regard et penser aussi environnement, penser également santé, parce que les enjeux de l'agriculture, c'est tout cela.
Oui, vous dites que l'agriculture constitue un socle et un projet pour nous tous, qu'elle oriente largement la course du monde.
Oui, parce que l'activité économique principale dans le monde, c'est l'agriculture. 40% des actifs sont des agriculteurs ou des actifs agricoles. Alors, ce qui est beaucoup moins vrai dans un pays comme celui de la France, puisque là, on a seulement 1,5% des actifs agricoles. Mais c'est évidemment l'agriculture qui structure, qui façonne le monde dans les paysages, dans la production agricole, évidemment, mais aussi dans les enjeux environnementaux jusqu'aux problématiques climatiques actuelles, et puis sans parler évidemment de toutes les multiples pollutions possibles liées à un mésusage de l'agriculture.
Alors aujourd'hui, vous dites que de nombreux agriculteurs à travers le monde ont l'amertume de constater que leur profession a été captée, écrivez-vous, par des firmes tentaculaires qui en ont fait des sous-traitants, par la grande distribution qui les épuise, par les banques auxquelles ils demeurent en permanence redevables. C'est sans doute la raison des colères que nous avons vues s'exprimer ces derniers mois, en Europe notamment.
Oui, une des raisons, parce que les agriculteurs sont tiraillés, sont pris en étau de multiples façons et sont dépossédés de leur pouvoir de décision, puisque ce ne sont même plus eux qui prennent les décisions, ce ne sont plus eux qui choisissent leur production. Ils sont endettés. Ils sont effectivement tiraillés par l'agro-industrie d'un côté, par la grande distribution de l'autre, et ce sont toujours les perdants. Alors, sauf quelques-uns, évidemment, mais la majorité, aussi bien en Occident et encore plus dans les pays du Sud, sont des perdants.
Alors, c'est un système qui montre aujourd'hui ses failles, et c'est important, l'enjeu est colossal, puisque l'agriculture représente quand même, c'est une activité qui impacte 40% des surfaces terrestres mondiales qui sont cultivées aujourd'hui.
Oui, c'est l'activité principale qui façonne et qui gouverne l'état du monde. Chez nous, en France, 54% de la surface terrestre est dévolue à l'agriculture. Donc c'est considérable.
Mais c'est encore plus dans les pays
et
du Sud.
Et c'est encore plus dans les pays du Sud où l'activité agricole est encore plus représentée. Mais alors c'est pas récent, hein. On sait qu'il y a déjà 5000 ans, l'agriculture elle a entre 10 et 12 000 ans. Il y a déjà 5000 ans, il y avait 25% des surfaces terrestres qui étaient déjà transformées par l'agriculture. Mais c'est pas nécessairement une mauvaise chose. L'agriculture peut être tout à fait vertueuse. À l'origine, on peut même dire qu'elle était fondamentalement vertueuse parce qu'elle se basé sur un accompagnement et une intégration des processus du vivant. Ce qui n'est plus le cas maintenant, où en fait on procède par substitution. On remplace les processus du vivant par des intrants, par des pesticides, par des fertilisants, etc. Et par de l'énergie fossile, surtout.
Oui, alors c'est le système dit conventionnel. Alors à chaque fois que j'entends ce mot, je me demande toujours finalement entre qui et qui la convention a été passée. On oppose souvent agriculture conventionnelle à agroécologie, etc. Mais d'où vient ce mot d'agriculture conventionnelle ?
Bon, c'était un choix consensuel, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un terme qui sonne un peu étrangement parce qu'il n'a pas été discuté. La convention par rapport à qui, effectivement, disons qu'on va dire
sûrement
que c'est
le modèle... Sûrement pas avec le reste des vivants, en tout cas.
Mais non, ça on est tout à fait d'accord. Mais disons que c'est le modèle dominant. Alors, c'est tentant de dire qu'elle est conventionnelle, mais est-ce qu'il suffit d'être conventionnel parce qu'on est dominant ou dominant parce qu'on est conventionnel, enfin, ça mérite d'être interrogé, évidemment.
Même si 80% de l'alimentation mondiale est encore fournie par l'agriculture familiale.
Exactement. Et ça, on a peine à le croire. Parce qu'il faut se rappeler qu'en Occident, en tout cas, cette agriculture conventionnelle, elle ne produit pas que des aliments, enfin des aliments directement utilisables par les humains. Elle produit en grande partie... Alors, par exemple, je reviens en France, 85% de la surface agricole est dévolue à la production animale, soit de manière directe par des pâturages, soit de manière indirecte par la production de fourrage ou de produits alimentaires tels que les dérivés du maïs, de l'ensilage du maïs, qui vont aux animaux. Mais le gros de la production mondiale, effectivement, est produit par l'agriculture familiale et de manière plus précise encore, par les femmes. Alors ces dernières semaines, pendant cette crise agricole, enfin qui n'est pas tout à fait finie, dont on a beaucoup parlé en Europe, on a beaucoup entendu des hommes, on n'a pas entendu de femmes du tout, alors que ce sont elles, dans le monde, qui tiennent l'agriculture.
Et alors vous dites du coup que ce sont les principales victimes finalement de ces écueils, oui, des modèles agricoles que l'on a choisis.
Ben oui, parce qu'elles sont complètement sous-payées. Alors dans les pays du Sud, elles produisent plus de la moitié, jusqu'à parfois 80% selon les configurations de la production alimentaire, elles n'empochent que 10% des revenus. Enfin, c'est évidemment terrible, alors que ce sont des forces de proposition. Ce sont elles qui ont une autre approche, pas nécessairement productiviste, qui ont le regard plus large. Elles sont peut-être plus naturellement ouvertes, enfin, je ne veux pas faire de l'essentialisme féminin, mais peut-être plus naturellement ouvertes à la complexité. Elles ne regardent pas que l'économie, elles regardent aussi l'environnement, elles regardent la santé et elles regardent le relationnel avec l'ensemble du vivant.
Aujourd'hui, ce modèle montre ses failles. On le voit avec la colère, mais pas seulement.
Mais bien sûr.
Avec les limites aussi planétaires, comme on dit.
Alors c'est vrai que ces derniers temps, alors si on revient à cette crise agricole occidentale, on a beaucoup parlé d'économie. On a parlé de production, mais on n'a pas parlé d'environnement, on n'a pas parlé de santé.
Enfin alors, si, on en a parlé pour tout raboter.
Exactement, pour s'asseoir dessus, pour s'asseoir sur le pacte vert, pour s'asseoir sur
le pacte vert européen qui mettait justement la préservation de l'environnement dans les méthodes agricoles.
C'est cela.
Tout cela a été suspendu.
Et comme les plans éco-phyto qui limitaient les pesticides. Et tout cela allait au service. Alors, on dit environnement, préservation de l'environnement, mais c'est préservation de nous-mêmes, c'est-à-dire maintenir des conditions d'habitabilité et de durabilité. Alors, il y a une étude très intéressante qui a été réalisée par la FAO l'an passé.
Donc, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation.
Cela. Merci. Qui a montré que quand on met, disons, 100 euros dans le panier de la ménagère, en réalité, on ne le voit pas, mais comme cette alimentation, selon le modèle dominant, n'est pas très vertueuse, on est obligé d'en mettre autant pour préserver l'environnement. Par exemple, préserver le caractère potable des forages, et autant pour des aspects médicaux, parce qu'on on mange mal, on a une agriculture qui est une grande utilisatrice de pesticides. Alors voilà, et on a tout un tas d'incidences directes et indirectes qui font qu'en réalité, on paye trois fois le prix. On croit faire des économies. Alors, dans les années 40-50, le panier de la ménagère, c'était à peu près 45%, et aujourd'hui, à peu près 15%. Donc, on croit avoir diminué, finalement, le coût de l'alimentation, mais en réalité, il n'a pas bougé. Et malheureusement...
En fait, les coûts sont partis ailleurs.
Les coûts, exactement. C'est des externalités négatives et qui coûtent, parce qu'il faut effectivement parer tous ces problèmes qui mettent l'ensemble du vivant, et donc nous-mêmes en particulier, en danger.
Alors justement, comment penser une agriculture où l'on vit dignement sans pour autant hypothéquer la terre, en conservant les écosystèmes tout en s'adaptant au climat qui change, la sécheresse, les événements climatiques extrêmes de plus en plus nombreux? Comment vivre décemment de l'agriculture avec des revenus stables, dignes, mais en refusant le fameux conventionnel, la monoculture et les pesticides? Ce sont toutes ces questions que s'est posé Altair Rodriguez de la Finca Tierra Negra en République Dominicaine, au cœur de la vallée du Cibao, une vaste zone de monoculture où elle tente de conserver le domaine familial, d'y maintenir les cacaoyers et leur système d'agroforesterie. Altair a un parcours atypique, elle a grandi en ville, elle s'est formée au droit, mais depuis 10 ans, c'est ce que l'on appelle une néo-rurale sur la ferme. Elle met en place plusieurs systèmes agroforestiers et notamment celui dit de l'agriculture synthropique. Alice Campagnol est allée à sa rencontre.
Alors là, Altair, nous avons dépassé ta maison, nous nous dirigeons vers les champs. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux me dire, la Finca Tierra Negra, elle est située où en République Dominicaine?
Bon, et on est dans la principale vallée agricole de la République Dominicaine, où malheureusement, et depuis les années 80, tout le monde a éliminé les systèmes de cacao, les cacaotiers, et la question des systèmes d'agroforesterie, pour planter seulement de la monoculture de cassava et de... banane verte. C'est cassava ou c'est manioc?
Manioc.
Manioc, exact. Et ça veut dire qu'ils ont éliminé tous les arbres. Complètement on parle de décennies, de centaines des hectares, ou des milliers des hectares, je crois que c'est plutôt des milliards. Parce qu'on mesure ici en taréas, pas en hectares. Mais c'est bien sûr, oui, des milliers des hectares qui ont été complètement déforestés, éliminés les arbres pour planter des monocultures. Alors on est les seuls dans toute la zone à avoir gardé les arbres, le vieux système de cacao. Si tu veux, je te montre un moment. C'est ironique parce qu'au début, ça faisait des années que je ne venais pas à la ferme parce que je faisais mon travail à Saint-Domingue et je travaillais dans un domaine complètement différent de l'agriculture. Et j'ai demandé à mon père comment va la ferme et il m'a montré une image sur Google Maps et j'ai vu que c'était la seule forêt dans ce désert de monoculture. Alors je me suis dit, je vais protéger ça.
Altair, est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as décidé de te mettre à l'agroécologie?
Quand je me suis dit, ok, maintenant je vais gérer cette ferme qui n'est pas commercialement viable, qu'est-ce que je vais faire pour la rendre commercialement viable? Alors je me suis rendu compte qu'il fallait plus de diversification, je ne sais pas si on le dit comme ça en français, mais plus, j'ai besoin peut-être que le cacao soit 30% des sous qu'on reçoit, pas 100%. Et l'autre chose, c'est ça, c'est incorporer plus de biodiversité, ça, pour faire de l'argent et pour que le système soit plus résistant au changement climatique et la terre soit plus vivante et que la biodiversité de la zone puisse être forte. Parce que la réalité est que normalement, on élimine les plantes qui donnent manger aux oiseaux, on élimine les plantes qui donnent manger aux insectes qui nous aident diminuer la quantité des plagas, des maladies. Voilà. Alors c'est ça. Qu'est-ce que cette recherche m'a mené à l'agroécologie et dans le domaine de l'agroécologie m'a mené à ce que je vais te montrer maintenant, que s'appelle l'agriculture synthropique. Agricultura sintropica. Qu'est-ce que c'est l'agriculture synthropique? C'est faire de l'agriculture en suivant et respectant les procès et les principes de la nature. Et qu'est-ce que veut la nature en soi-même si on la laisse seule? Elle veut faire des forêts. Je dis toujours, quand je parle de ce domaine, je dis le sol nu ou la terre nue, on lui demande qu'est-ce que tu veux faire quand tu grandises? Elle te dirait, je veux être une forêt. Et alors, comment peut-on faire des forêts en faisant de l'agriculture? C'est exactement ce qu'on est en train de développer ici, en Finca Tierra Negra, et que l'agriculture centropique nous aide.
Tu m'as dit aussi qu'il faut mettre des choses qui puissent s'adapter au changement climatique. C'est-à-dire que tu mets des espèces qui supportent plus la chaleur, qui ont besoin de moins d'eau.
Ça, c'est un élément essentiel. Mais la première chose qu'on doit faire pour que la terre soit plus vivante, et alors pour qu'elle soit plus capable de tenir quand il y a trop de sécheresse ou trop de pluie, qui est enfin les deux principaux effets de changement climatique avec l'hausse de la température. Ces trois choses, la première chose qu'on doit faire comme des agriculteurs, c'est commencer à couvrir la terre quand on fait de l'agriculture. Normalement, il y a l'idée que la terre doit être nue pour être productif. Et ça, c'est une idée très, très, très mauvaise parce que si tu laisses la terre nue, tu crées les conditions pour que la microbiologie s'élimine. Alors avec l'agriculture conventionnelle, on commence par remuer la terre, après on la laisse nue, à chaque fois que les herbes veulent couvrir, on dit non, allez-y, on vous veut pas, mais on comprend pas que les herbes, ce qu'on appelle les mauvaises herbes, que c'est un langage qui doit changer, elles sont en fait en train de faire un travail que la nature a besoin, et ça c'est de couvrir la terre. Bien sûr, elles sont là pendant un moment pour créer des conditions pour que d'autres plantes viennent. Parce que c'est la succession écologique, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit en français, mais c'est la succession écologique qui permet ce processus de transformation de terre nue en forêt. Et c'est ça qui est cool, parce que Ernst Gotsch, qui a créé les méthodes de l'agriculture centropique, la seule chose qu'il a fait, c'était d'observer la forêt et de comprendre des choses que l'humanité moderne ne comprend pas, mais des peuples indigènes, pendant des différentes étapes de la vie et du monde, avait compris. Et c'est ça, que chaque plante joue un rôle et la nature a un schéma, un parcours qu'on doit respecter.
Donc là, on est dans un champ de bananiers, on a aussi du maïs, il y a de la papaye plus loin, en fait, et au sol, il y a de l'herbe. Entre chaque rang, en fait, c'est absolument pas nu, il y a aussi des restes de troncs, il y a aussi du bois sur le sol. Donc oui, c'est vrai qu'on est face à un champ qui est très, très rempli, si on peut dire ça comme ça.
Exact, et rempli. Et j'aime bien que tu as vu les vieux bois. Les vieux arbres ont un rôle dans cette transformation. Leur rôle, c'est d'alimenter les nouvelles générations. Et comment ils le font? En créant des protections, de rétention de l'humidité, en créant un vrai engrais pour les champignons qui vont décomposer, qui vont alors permettre la nutrition. Parce que c'est ça. L'humanité moderne doit comprendre comment les plantes fonctionnent et qu'est-ce qu'elles ont vraiment besoin pour nous nourrir. Elles n'ont pas besoin des engrais synthétiques. Les engrais synthétiques ne fertilisent pas la terre. Ils donnent un boost, ils font pousser les plantes, mais pas en santé, pas avec la nutrition dont elles ont besoin. Et les engrais synthétiques ne nourrissent pas la terre. Une chose que je dis toujours, c'est on doit comprendre que pour nous nourrir nous-mêmes, on doit en même temps de travailler pour nous nourrir nous-mêmes, travailler pour nourrir la terre.
Il y a des gens qui ont des arguments en disant qu'une agriculture centropique, dans ton cas, elle n'est pas assez productive.
Au moins, je te peux parler dans les domaines de climat tropical. Et c'est ce que je connais comme agriculture. Le problème, c'est la vision dans laquelle est placé ce débat. Le but ne devrait pas être... Comment peux-je produire plus de maïs par hectare, plus de bananes par hectare ou plus de n'importe quoi par hectare? Non, c'est comment peux-je produire la plus quantité de nourriture dans la plus santé possible pour le plus longtemps? Et personne ne parle de ça. Pendant qu'on le débat, c'est « Ok, bio, je fais 200 kilos moins par hectare », on est dans la merde pendant qu'on se maintient dans ce débat. Alors, une chose que je peux te dire, oui, comme tu vois ici, on a 15 espèces par hectare. Tu as dit plusieurs. Et là, comme le système a 6 mois seulement, tu ne peux pas voir les arbres. Mais ici, on a du cacao chaque 3 mètres. On a ce qu'on appelle mères de cacao chaque 3 mètres. Mères de cacao, c'est les arbres, on les appelle comme ça, madre cacao. Et ça, c'est un terme de l'agriculture centropique, mais on l'utilise dans différents domaines. En agriculture centropique, ce que ce terme veut dire, c'est pour chaque cacao, qui est mon plante principale, mon arbre principal, j'ai un autre arbre qui va nourrir le cacao. Comment va-t-il nourrir le cacao? Il va donner de l'ombre, mais aussi il va produire de la matière organique pour couvrir toute la terre autour du cacao et pour nourrir la microbiologie qui est là. Ce système a 6 mois. Déjà, on a récolté le maïs, on a déjà récolté les haricots, parce que les haricots, on les récolte dans le 2e mois. Mais on a toujours ce que tu as vu, les bananes. Il y a toujours plusieurs haricots, parce qu'on plante des haricots pour manger, mais on plante aussi des haricots pour donner de manger à la terre. Alors la canavalia, c'est un haricot qu'on coupe, et on ne mange pas. En plus, il y a des plantes comme la cassava, qui ici joue une double fonction. Ce cassava-là, je ne la plante pas pour manioc. Je dis toujours cassava parce que c'est en anglais. Alors la manioc me donne, comme toujours, les plantes font différentes choses. Alors là, elle donne de l'ombre pour le petit cacao, mais aussi elle me donne de la matière organique pour que la terre soit complètement couverte. Tu vois, ici, après 6 mois d'avoir établi le système, on ne lutte pas avec les fausses mauvaises herbes. On ne lutte pas avec elles parce qu'on a des plantes qu'on veut qui poussent et on a la terre couverte. Et alors, on a passé ici au moins 5 ans en luttant avec les mauvaises herbes parce qu'on ne met pas des glyphosates, on ne met pas d'herbicides. Et tous mes voisins me disaient, mais pourquoi tu dois mettre des herbicides? Parce que tu payes plus, tu vas mourir si tu n'utilises pas d'herbicides. Et je disais, en lisant sur l'agroécologie et en visitant des projets, je disais, non, il doit y avoir un moyen. On va y arriver à pouvoir planter des choses pour manger en bonne quantité sans utiliser d'herbicides. Et finalement, c'est l'agriculture centropique qui nous a permis. Alors, on n'a pas commencé à utiliser l'agriculture centropique et sans avoir une expérience et en avant. On a eu une expérience de beaucoup d'échecs. On plantait et les mauvaises herbes nous mangeaient tout. Ça, elles poussaient trop fortes. Et on voulait voir comment les bananes y allaient. Il n'y avait pas de bananes parce qu'on venait, on les coupait avec les machettes. C'était une lutte, c'était un procès très très dur d'arriver à avoir des résultats. Et sincèrement, c'est la 4e année qu'on transforme un petit bout de la ferme en utilisant les principes d'agriculture centropique et les résultats sont vraiment incroyables. Maintenant, cette ligne que tu vois d'arbres avec papaye, avec banane, avec haricot, ont vécu la sécheresse la plus dure de probablement du siècle. En 10 ans, je n'avais jamais vu un truc comme ça et tout le monde, les personnes les plus vieux de la communauté me disent qu'ils n'ont jamais vu une sécheresse comme on a vu en février et mars. Alors, on a planté en janvier et pendant 2 mois, il n'a pas plu. Et 2 mois sans pluie dans un climat tropical humide, c'est presque... Ça, j'avais vécu, parce qu'on mesure un peu la pluie, j'avais vécu 1 mois sans un goût de pluie, mais pas 2 mois. Et je suis sûre que ce système-là, il n'est pas parfait, les plantes nous disent qu'elles ont besoin d'eau. On n'a pas d'irrigation ici, on dépend exclusivement seulement de la pluie. Mais c'est parce que la terre est couverte. C'est parce qu'on crée d'ombre avec cette plante qui pousse vite. C'est parce qu'on est plus capable de retenir l'humidité que le système tient. Et malheureusement, je vais te montrer juste à côté un système de monoculture. Dans 2 mètres de différence, tu fais une comparaison entre l'humidité de la terre avec un système centropique et un système conventionnel. Et 2 mètres de distance, et on dirait que c'est 2 terres, et ça, milliers de kilomètres à part.
La tierra está girando por ti, susurrando vivo por ti. Aire, tierra, verde, barro, vida por la que caminas, respiras junto a tu verde sol. Hay un tesoro en este lugar. Para encontrarlo no hay que excavar. Ama tu cabeza toda la belleza que es tu tierra y danza a fiestas para ti. Pon tu corazón a latir por ti, que la tierra es tuya y necesita de ti. Tú lo sabes bien, es lo que hay que hacer. Defender la tierra con todo tu ser.
Alors, c'est ça que je voulais te montrer quand je te disais qu'il y a une différence énorme entre un système régénératif et et un système conventionnel. La manioc que tu vois là, c'est une manioc, c'est partie de la ferme, mais ce n'est pas géré par nous. On a dû le donner à une personne pour qu'il plante, sans chimique, mais malheureusement en monoculture, parce que les gens ne sont pas très encouragés à faire ce qu'on fait. Et regarde la terre, elle est complètement nue. Ici, on dit que c'est la meilleure terre de ce pays. Tout le monde, ça, la zone, pas la ferme, la zone. Elle est noire, c'est pour ça qu'on a fait le Finca Tierra Negra. La terre est vraiment, vraiment noire. Et tout le monde se dit, ça va durer pour toujours. On ne se rend pas compte que depuis qu'on a éliminé les dernières cacaoyers ou système agroforesterie de cacao il y a 30 ans déjà, la terre, graduellement, elle perd la qualité. Il y a 30 ans, on plantait des bananes, on plantait des manioc. Il n'y avait pas besoin d'insecticides, de fungicides. Et maintenant, on doit en utiliser de plus en plus. Mes voisins, dans le sud, tu vois, la monoculture de bananes vertes. Dans le nord, un autre monoculture de bananes vertes. Maintenant, ils commencent à appliquer des insecticides avec des avions. Ça n'existait pas il y a 20 ans. Maintenant, c'est très courant. Tous commencent à, parce qu'ils ont tous des grosses fermes, ils commencent à faire des puits parce qu'il n'y a pas d'eau et on ne peut pas compter sur la pluie. Une chose que je sens vraiment après avoir essayé pendant presque 10 ans de vivre comme agricultrice et pas réussir, pas encore, c'est que sans la capacité d'avoir un système d'irrigation, il va devenir impossible de planter rien. Et par exemple, les producteurs de cacao de ce pays, le 80%, sont des petits producteurs qui n'ont pas les moyens d'avoir des irrigations. Alors je me dis, peut-être dans 10 ans, il n'y aura pas de cacao au moins dominicain, et peut-être dans le monde, tu vois. J'ai lu des chiffres qui... Ça, parfois, le cacao et le café, c'est des cultures très sensibles au changement de température. Et j'ai lu des études qui disaient, peut-être dans 30, 40 ans, on n'aura pas la température qui nous laisse planter des cultures comme le café et le cacao. Et on le sent ici, 10 ans seulement, et je sens la différence. Comme on a éliminé tous les arbres de la zone, la terre, quand elle est nue, la terre n'en profite pas de l'eau.
L'eau ne pénètre pas.
L'eau ne pénètre pas, exact. Et alors il y a ce qu'on dit en anglais « runoff », érosion, el suelo se lava. C'est pour ça que les rivières sont marrons maintenant. Et entonces, mira, vamos a comparar. Vamos a comparar aquí adelante. Je veux que tu vois.
Donc là, nous sommes face à un champ de manioc. Donc le manioc, c'est une petite plante qui fait environ, là, qui fait 30 cm.
Elle peut pousser jusqu'à 1 mètre.
Donc on est face à un champ de manioc et on voit vraiment que la terre, pour le coup, c'est vraiment... Il y a uniquement du manioc dans ce champ et on voit que la terre, elle est toute craquelée. On voit qu'elle est très, très sèche, cette terre noire. Et on voit vraiment la différence, pour le coup, à gauche... On a plus de biodiversité, de l'herbe, des plantes, des arbres. Et à droite, on a tout un grand champ avec uniquement de manioc et quelques arbres au loin.
Il a plu il y a 2 jours.
Ah ouais. Et là, c'est vrai qu'il a plu il y a 2 jours, mais la terre est complètement craquelée. Elle paraît extrêmement sèche.
Alors, et je veux qu'on fasse une comparaison entre la terre à gauche, qui est très couverte, et la terre à droite, où il n'y a que de manioc.
Ah oui, là c'est humide. Donc là on est en train de toucher la terre au pied de l'un des arbres dans le champ. Et c'est vrai que la terre est humide, quoi. Vraiment, il y a plein de... Il y a du humus. Ouais, vraiment, on sent que c'est... Bon, il y a vraiment toute une couverture biologique importante. Il y a plein de...
Et alors c'est ça qu'on doit comprendre. Les plantes ont besoin d'une terre comme ça et pas comme ça, une terre... Et avec plein de matières organiques, de microbiologie, parce que ce qu'on a senti, c'est la microbiologie, c'est les champignons, c'est les bactéries qui aident à faire un recyclage de nutriments. Sans ce recyclage de nutriments, on n'aura jamais des plantes vraiment en santé.
Tu prêches dans le désert, tu penses qu'un jour tu arriveras à faire prospérer ton idée auprès des agriculteurs plus conventionnels plus...
Je crois que ça commence à changer depuis l'année. Maintenant qu'on a plus d'espace qui montre la différence, parce qu'au début, on était convaincus, mais on n'avait pas rien à montrer. Maintenant qu'on a des choses à montrer, maintenant que tout le monde sent... Parce que la plupart des agriculteurs, même il y a 10 ans que j'ai commencé à parler avec eux, ils savent qu'il faut changer... comment on fait l'agriculture. Ils se rendent compte qu'il y a moins de la pluie, qu'ils doivent utiliser à chaque fois plus de chimie synthétique. Ils disent oui, il faut changer. Mais je me souviens, un monsieur qui a fait beaucoup d'argent comme agriculteur, il me disait, oui, je sais, le bio, c'est le futur. Mais donne-moi un marché qui me paye le prix et je le fais.
Alors justement, moi, ça m'intéresse de parler de rentabilité. Je crois qu'on va se rendre chez toi, dans ta maison, qui est située à l'entrée de la ferme. On y est passé tout à l'heure pour en parler un peu plus au calme et surtout pour en parler un peu plus au frais, parce qu'il est midi, il fait extrêmement chaud ici. Donc on va se rendre dans ta maison, parler rentabilité, parler aussi de l'histoire agricole. Moi, ça m'intéresse de la zone pour savoir comment on en est arrivé à ce système de monoculture. Et je crois que chez toi, on va rencontrer aussi un collègue avec qui tu travailles et qui va me donner eh bien, son opinion hein, sur l'agriculture syntropique.
Hacemos las voces, gritemos consignas, todos construyamos plan de vida digna y con nuestras manos hacemos banderas con identidad sobre nuestra tierra y por todo el campo nazca la comida que predomine la soberanía y que la unidad se haga productiva. En el campesino que su vida es digna, porque te levantas en las madrugadas, ves al horizonte un sol de esperanza, quieres a la tierra porque esa es tu casa, y cuando tú mueres con ella te abrazas.
Soy Armando Rosario. Yo soy injertador, podador.
Je suis Armando Rosario. Ici, à la finca Tierra Negra, je fais des greffes. J'ai la glaise arbre. Je m'y connais aussi en semis. Je connais pas mal les arbres. Avant d'arriver, j'ai travaillé dans plusieurs endroits du pays, en agriculture conventionnelle. Ici, à Finca Tierra Negra, je découvre une façon de travailler très différente, une agriculture qui se concentre sur la protection de la terre, sur la protection des sols, une agriculture qui pense à l'environnement, qui pense à la planète. En gros, ici, on cultive des aliments, tout en gardant la planète en tête.
Et comment est-ce que tu expliquerais la différence entre l'agriculture conventionnelle, donc avec laquelle tu as travaillé avant, et l'agriculture syntropique que vous mettez en place ici ?
Oh, la diferencia es que donde se trabaja convencional, solo se piensa en
lo que eh bien, c'est simple. Dans le conventionnel, on ne pense qu'à ce que l'on produit. Et en ignorant complètement que la planète qui produit ces aliments, elle aussi a besoin de nourriture. Et cette nourriture, elle est donnée par le sol. Et dans l'agriculture conventionnelle, le sol n'est absolument pas nourri. Mais le sol a besoin de nutriments pour avoir des forces et donner la vie aux plantes que nous faisons pousser. Bref, l'agriculture conventionnelle n'a pas une vision sur du long terme. Tandis qu'avec l'agriculture syntropique que nous mettons en place ici, eh bien, on plante en pensant à nous, mais aussi à la terre.
Et ça t'a coûté de changer de mentalité ?
Je ne connaissais pas du tout ces méthodes, mais au fond, dans le conventionnel, j'avais le sentiment que quelque chose n'allait pas. Et ça, ça a plu Altaïr. Je crois que quand je suis arrivé, même si c'était dans un monde inconnu pour moi, j'ai tout de suite accroché avec la logique du syntropique. Alors qu'il y a des élites, entre guillemets, de l'agriculture du pays qui sont passées ici et pour eux, ça n'avait rien de logique ce système. Ça n'avait pas de sens à leurs yeux. Pour eux, ce n'est pas comme ça qu'il faut travailler. Mais Altaïr, quand elle m'a vu dans les champs, quand elle a vu que je voyais clairement la différence entre les systèmes d'agriculture et que pour moi, ça avait toute la logique du monde, là, on a vraiment connecté tous les deux.
Merci beaucoup Armando, on sent que tu es extrêmement passionné. Et Altaïr, pour revenir à toi, alors qu'est-ce qui s'est passé ici hein, pour que l'on arrête de penser au bien-être de la terre comme le dit Armando?
Malheureusement, pendant les années 70, surtout 80 et 90, et la famille, mais aussi tous les agriculteurs de la zone ont dû brûler les fermes de cacao pour planter des monocultures de manioc et de bananes vertes. Pourquoi ? Parce que le cacao a vécu la baisse la plus forte des prix dans les années 80. Et c'était vraiment impossible de faire de l'agriculture de cacao et vivre avec dignité. Malheureusement, qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? qu'on a perdu une richesse écologique de la zone. C'était la zone de la vallée de Cibao, le principal vallée agricole, la zone la plus riche en termes de biodiversité, de santé des sols, de production en diversification, parce que toujours, quand on plante du cacao en République dominicaine, c'est pas comme ça dans tous les pays, mais en Amérique latine et surtout en République dominicaine, on plante toujours des différentes choses ensemble. Alors tout le monde dans les communautés ne faisait que planter en commodité pour export, parce que 90% du cacao qu'on pousse dans ce pays, on l'exporte. Il n'y a pas tellement de consommation locale. C'était comme ça. Mais à part le cacao, il y avait toujours des fruitiers, des bananes, des avocats, comme on... Et ça était une clé pour garantir la souveraineté alimentaire et la santé dans les communautés. Qu'est-ce qu'on a vu des 80 jusqu'au moment? Une perte de tout ici, une perte de qualité de sol, une perte de qualité de vie. Alors, il y a 10 ans, comme famille, on s'est rendu compte qu'on avait le seul espace forestier de la zone et que c'était un espace où on pouvait produire de la nourriture en harmonie avec la nature. Et du coup, quand on a commencé, surtout dans mon expérience, il a fallu que j'aille à d'autres pays pour apprendre l'agroécologie, la permaculture. Je me suis rendu compte que des espaces comme Finca Tierra Negra sont essentiels pour montrer aux gens comment revenir à une harmonie avec la nature.
C'est une zone très agricole. Comment est-ce que tes voisins, comment est-ce que les agriculteurs de la zone te voient et comment est-ce qu'ils voient l'évolution de ta ferme?
La plupart des gens croient que je suis folle. Je ne le comprenais pas au début. Au début, je ne comprenais pas pourquoi les gens ne plantaient plus de cacao. Je ne comprenais pas l'économie et du cacao, je ne comprenais pas l'économie de manioc. Et après 2 ans, je me suis dit, tiens, je comprends pourquoi tout le monde plante du cassava. Tu fais un investissement pendant une année, tu fais 20 fois plus d'argent qu'avec le cacao, alors tu as moins de risques. Tu apprends seulement d'une chose. Qu'est-ce que cette chose veut? Qu'est-ce que cette chose ne veut pas? Et ça y est. On est juste dans l'espace de plus agriculture intensive du pays, je crois. Et je crois qu'il y a cette tension entre des gens qui ont eu une bonne vie grâce à l'agriculture. Mes voisins, c'est des agriculteurs qui ne sont pas pauvres. C'est la meilleure terre agricole du pays. Ils ont 100 hectares, 200 hectares. Et d'un côté, c'est des gens qui regardent la terre comme une source seulement économique. Mais d'un autre côté, c'est des gens qui, comme la plupart sont de la campagne, ils se rendent compte de la transition. La plupart se rappellent de comment ils vivaient ou comment ils ont grandi quand cet espace était complètement différent, quand il y avait des arbres, de l'ombre, quand l'eau était propre et ils pouvaient se baigner dans la rivière. Alors c'est une génération, je crois, que d'un côté, convaincue que le seul moyen de produire de l'agriculture, c'est avec des chimies, parce qu'ils ont grandi avec ça. Mais en même temps, ils se disent, si on continue comme ça, ça ne fonctionne pas. Et c'est dommage parce que j'ai arrivé à la conclusion que la seule façon de changer leur tête, c'est de leur démontrer avec des chiffres que c'est différent. Et il y a un qui me l'a dit une fois, il me dit, je gagne X millions chaque année avec mes 200 hectares. Le jour où tu peux me dire qu'avec le cacao, avec le truc que tout mélangé, que tout fait, je peux faire mes X millions, je vais les faire.
Et tu vas y arriver ou pas?
Je suis certaine que c'est économiquement possible, mais je suis certaine aussi qu'il faut changer la logique. Et il faut aller au-delà de l'économie en court terme. Si on pense seulement en court terme, oui, c'est beaucoup plus facile et rapide et moins risque de faire ce que tout le monde fait. Mais, bien sûr, ça veut dire pas d'être humain dans les prochains peut-être 20, 30, 100 années, on ne sait pas. De plus en plus, je crois qu'on a moins de temps dans cette terre si on continue comme on va.
Un reportage d'Alice Campagnol réalisé par François Porcheron. Jacques Tassin, je rappelle que vous êtes agronome et écologue au CIRAD, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement et membre de l'Académie d'agriculture de France. Et vous venez de publier Agriculteur aux éditions Odile Jacob. Alors dans ce reportage, on entend beaucoup de choses que vous prenez finalement dans votre livre. On entend à la fin que c'est quand même la question de la rentabilité qui conditionne l'acceptabilité du changement. C'est toujours une question que l'on pose. Est-ce que ça va être suffisamment rentable si on ne met pas d'intrants? Il faut même le CIRAD faisait récemment au Salon international de l'agriculture. Nous avons fait des émissions avec les chercheurs, avec vos collègues, qui disaient qu'il faut quand même mettre un peu d'engrais dans la terre pour augmenter la productivité.
Ah ben, y a des situations effectivement qui sont telles où on est obligé de restaurer les fonctionnalités biologiques du sol en l'aidant au départ. Par contre, il y a tout de même une kyrielle d'autres modèles que celui de l'agriculture conventionnelle, que l'on regroupe autour du terme d'agroécologie, alors qu'il y a un terme qui est mal compris, parce qu'on se dit, oula, c'est les écolos qui veulent finalement tenir les rênes de l'agriculture. Mais c'est pas ça, c'est simplement une proposition qui vise à tenir compte des grands processus biologiques et écologiques qui opèrent au sein du vivant pour faire en sorte que l'agriculture soit plus vivable. Et l'agroforesterie dont nous venons d'entendre une présentation est tout à fait dans ce sens-là, de maximiser les interactions au sein du vivant pour plus de résilience, pour plus de production globale, pour plus de main-d'œuvre aussi, parce que le problème de la productivité, c'est que ça va toujours vers finalement l'éviction des actifs. Hein. Aujourd'hui, on en est en France à 1,5% seulement de la population totale qui est au service de l'agriculture. C'est extrêmement faible. C'était 50% au début du XXe siècle. C'était encore 25% après la Seconde Guerre mondiale. Donc ça pose problème. Ça veut dire qu'on vide les campagnes, qu'on se retrouve avec des milieux ruraux sinistrés et qu'on va dans une course en avant, mais le mur est pas loin, puisque la moitié des actifs agricoles actuels partiront à la retraite dans 10 ans. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce monde-là sera remplacé par autre chose, si nous l'on ne fait rien, par des firmes agricoles. Et l'agro-industrie, alors pardon pour le gros mot, mais résumons cela comme ça, même si c'est excessif, l'agro-industrie tiendra toute l'agriculture et poussera encore, évidemment, parce qu'elle sera encore plus forte, vers davantage du productivisme en écartant les problématiques environnementales, c'est ce qu'on a vu récemment, et en écartant les problématiques de santé.
Alors revenons à ce reportage avec Altair Rodriguez. Elle démontre que finalement, avec 15 espèces par hectare, on peut bien vivre de son métier. Ça aussi, c'est quelque chose que beaucoup de gens font sans s'en rendre compte, finalement, naturellement. Quand on disait tout à l'heure que 80% de l'alimentation mondiale provenait de l'agriculture familiale, ben le bon sens veut que l'on ait plusieurs cultures à l'hectare pour subvenir à ses besoins. Mais ce n'est pas la tendance de l'agriculture dite moderne.
C'est cela, mais c'est la tendance de fond de l'agriculture mondiale, comme vous le dites, et donc de l'essentiel de l'agriculture qui est basée sur des associations, sur des rotations, qui est très observatrice du vivant et qui essaie de maximiser, par exemple, l'énergie solaire en répartissant les différentes cultures sur différents étages. Ce qui fait que l'ensemble...
Les feuilles des uns protègent les autres.
Voilà, ouais. Et puis se complètent les unes par rapport aux autres, ce qui fait que l'énergie solaire est valorisée au maximum. Ce sont aussi des systèmes qui réactivent la fertilité biologique du sol, c'est-à-dire que ce sont des sols vivants, donc qui sont davantage poreux, davantage actifs, qui... on n'a pas le temps d'en parler, mais qui aide à l'immunité des plantes, voilà, notamment par des associations avec des champignons, etc. Au niveau des racines. Donc c'est tout un ensemble de processus vertueux, interactifs, symbiotiques, voire syntropiques, qui, voilà, le sein, le S-I-N grec, c'est le ensemble. Et cette agriculture qui est pratiquée dans l'ensemble du reste du monde et qui représente aussi la proposition d'une agriculture qui nous préserve un monde habitable, c'est une agriculture de l'ensemble, c'est-à-dire une agriculture, effectivement, comme on l'a entendu, une agriculture créatrice, parce que le modèle conventionnel est plutôt captif, prédatif. Mais en réalité, il faut savoir que quand on utilise... quand on produit une calorie alimentaire, il a fallu entre 5 et 10 calories d'énergie fossile, donc de pétrole. Donc c'est un rendement nul, terrible. franchement mauvais.
Et dans le contexte du changement climatique, dont les conséquences se font de plus en plus sentir partout dans le monde, on entendait là Altair Rodriguez expliquer que sa culture, enfin sa ferme, a résisté à 2 mois de sécheresse. Donc là aussi, finalement, nous allons sans doute être obligés de repenser nos modèles agricoles avec cette nouvelle donne.
Oui, oui, parce que les associations de végétation, ou voire même aussi des interactions avec des animaux d'élevage, c'est plus de résilience et c'est plus de résistance. Alors, c'est ce qu'on voit aussi sur les attaques de pathogènes ou de virus ou d'autres. Plus on a une parcelle agricole en structure de mosaïque, plus on complique la circulation de ces ravageurs dont on ne veut pas. Donc ça va toujours dans le bon sens. Donc pourquoi s'en priver ? Ça va vers plus de résilience, plus de durabilité, effectivement une capacité à traverser des périodes difficiles, pénibles, telles qu'un épisode de sécheresse. C'est plus de résistance au passage du feu aussi, pour la même raison que celle que je viens de vous évoquer. Donc c'est une agriculture qui fait du bien à tout le monde au bout du compte, quoi, qui pour le coup est vertueuse.
Alors dans votre livre, vous dites quand même qu'il y a tout lieu d'espérer, notamment avec ces néo-ruraux qui de plus en plus arrivent dans les campagnes. Bon, malheureusement, ça reste marginal, mais on voit aussi dans certains pays d'Afrique, nous étions récemment au Cameroun, des initiatives comme l'association Un Diplômé, Un Champ qui incite les jeunes à aller vers l'agriculture parce que c'est en effet un endroit où c'est pas ringard de faire de l'agriculture. On peut gagner correctement sa vie si l'on choisit des méthodes résilientes, notamment face au changement climatique.
Oui, oui, on peut gagner sa vie et puis on peut gagner en bien-être aussi. Donc ça compte et puis on gagne en bien-être parce qu'on sent que ce que l'on fait, contrairement aux agriculteurs qui sont embarqués dans le modèle dominant contre leur gré, les autres et qui sont en souffrance, mais c'est terrible. Moi, je les plains de tout mon cœur. Franchement, ils ont voulu faire du mieux possible, mais malheureusement, ils ont été, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont été pris en étau. Et ils n'ont pas eu cette possibilité-là. Et là, on voit arriver des propositions nouvelles, alternatives, un peu sur les marges, mais les marges sont toujours intéressantes. Hein. C'est sur les marges que s'élèvent les montagnes.
Oui, vous écrivez « Un choc sismique opère et dans le réseau de failles qui l'ouvre, une eau claire paraît surgir ». Ça fait du bien.
Mais je crois que c'est la vérité. Enfin, moi, je suis optimiste. Enfin, c'est effectivement cette force de proposition plutôt souterraine, hein, qui est assez impalpable, assez invisible, mais qui est là et qui représente ce rhizome souterrain qu'on a du mal à circonscrire, mais qui est cette force de proposition vers autre chose avec effectivement tout un tas de néo-ruraux, mais aussi ruraux de souche, qui sont très attentifs à ces propositions nouvelles.
Merci beaucoup, Jacques Tassin, d'être passé dans C'est pas du vent et de nous avoir apporté ces bonnes nouvelles. Malgré tout, votre livre s'appelle Agriculteur, refonder l'agriculture au service de tous. Il est publié chez Odile Jacob. Merci à Caroline Fillette pour la préparation, à François Porcheron pour la réalisation. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Allez voir notre programmation sur les réseaux sociaux. Caroline s'applique à vous informer sur les prochaines émissions. Alors, posez-nous des questions, nous les transmettrons à nos invités. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, même planète, même heure. Et tout de suite, c'est le journal sur RFI.